denke, dass ich dir damit nicht kränke. An deine Taten soll man dir messen. Freiheit und Lieder und Wurst zum Essen. Oi, oi, Mama, wer alles kann, macht, macht dumm. Schnell wird man ein Tyrann. Oi, oi, Papa, du kannst mehr. Bleibe immer Mensch und sei ein Revolutionär. Michael, Michael. Oi, 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 Michael, Michael. Michael, Michael.
Je ne sais pas si vous comprenez mieux que nous l'allemand et ce que raconte Nina Hagen à propos de Mikhaïl Gorbatchev révolutionnaire. Peut-être qu'elle dit à sa maman qu'elle veut épouser aussi un révolutionnaire, qui sait? On ne sait pas. Enfin, si vous vous comprenez, vous nous direz. Alors Evelyne, quelle est la suite de l'histoire de Jenny Marx?
Oui. Alors, on pourrait dire aussi peut-être pourquoi Marx n'a jamais eu une situation, au départ en tout cas. Hein. Son père l'avait envoyé à 17 ans à Bonn pour faire des études d'avocat, comme lui. Il voulait qu'il soit un avocat qui réussisse mieux que lui. Apparemment, ça n'attirait pas beaucoup le jeune Karl Marx, qui, pendant une année, n'a rien fait d'autre que jeter sa gourme. Il l'avait envoyé à Bonn. Et puis... il revient donc au bout d'une année, et c'est là qu'il se rencontre avec Jenny. Il se rend compte que c'est une belle femme et qu'il l'aime, et ils se déclarent mutuellement leur amour. Mais bon, il n'a toujours rien. Après les vacances, ils se sont vus pendant les vacances, il retourne cette fois à Berlin. Et il fait soi-disant des études de droit, mais en fait, ce qu'il fait, c'est il étudie la philosophie et l'histoire. Tout seul. Et il a assez vite un cercle d'admirateurs, parce qu'il a un pouvoir de conviction quand il parle, extraordinaire, qu'ont remarqué et signalé tous ceux qui l'ont approché. Il a une intelligence extraordinairement brillante, et on sent déjà le grand théoricien qui se prépare. Donc il se consacre à ça, et puis ses études durent, et ça dure 7 ans, jusqu'à ce qu'il finalement il obtienne son doctorat en philosophie. Mais on a déjà remarqué que c'est un homme peu conformiste, et quand il essaye de se chercher une chaire de professeur à l'université, dans une université allemande de l'époque, eh ben, il n'en trouve pas, parce que on ne peut pas accepter ce genre de professeur. Il professe déjà, et on le sait un petit peu, des idées qui ne sont pas du tout dans la ligne, contre la religion, entre autres, et bon. Enfin, donc, il ne trouve pas un travail de professeur, et il semble qu'il pourrait faire du journalisme, parce qu'on lui propose d'être le collaborateur à la Gazette Rhénane, la Rheinische Zeitung de Cologne, et il va essayer, mais très rapidement, le genre d'article qu'il commet va faire fermer retirer la licence du journal. Donc très vite, sa carrière de journaliste en Allemagne va terminer. Mais ils se marient quand même, les deux jeunes. Entre-temps, leurs deux pères sont morts. Et donc Jenny, son père était un aristocrate, mais ce n'était pas un aristocrate riche, il était fonctionnaire du gouvernement. Sa mère n'a juste qu'une pension de veuve, et donc elle n'apporte pas de biens, elle n'a pas de dot. Du côté des Marx, la mère de Marx, qui est aussi restée veuve, doit doter 5 filles, et elle n'est pas très contente d'aider tellement le seul garçon de la famille qui, en fait, n'a pas de situation.
Être le soutien.
Et voilà, et n'essaye pas d'en trouver une, apparemment. Bon, donc, tous les deux, ils sont assez pauvres. Ils se marient quand même. Et ils ont une possibilité d'aller vivre à Paris. un Allemand est prêt à financer une revue qui va s'appeler Les Annales franco-allemandes, dont il n'y aura d'ailleurs qu'un seul numéro, et il demande à Marx de venir à Paris pour s'en occuper. Et c'est ainsi que le jeune couple, avec Jenny tout de suite enceinte, part pour Paris. Ils partent pour Paris en 1843. C'est un Paris très prospère qui découvre avec une bourgeoisie encore triomphante. On n'est pas encore à l'année 1848 où il y aura la Grande Révolution. Et bon, elle participe à la vie des émigrés. Il y en a beaucoup. Il y a une colonie de 10 000 Allemands à Paris. Pas tellement des intellectuels, plutôt des artisans. On dit que tous les cordonniers de Paris à l'époque sont allemands. Des artisans, des manœuvres qui sont pour la plupart communistes et exilés, comme ça. Alors, ils sont dans cette communauté, eux, visitant plutôt les intellectuels. Ils deviennent amis du poète Heine, par exemple. Et bon, et disons, leur vie se déroule comme ça. Lui prépare ce premier numéro des Annales franco-allemandes, donc il lit, il écrit, etc. Et puis elle a son premier enfant, une fille, qu'ils vont appeler Jennychen. Et disons, tout se passe plus ou moins pour le mieux, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent. Déjà à l'époque, il commence à elle par son grand-père avait une origine écossaise dans les comtes d'argile et elle avait hérité une argenterie absolument somptueuse que tout au long de sa vie elle va vendre petit à petit, ou plutôt Karl Marx souvent va vendre pièce par pièce pour subsister.
Jenny ne travaille pas.
Jenny si elle travaille, elle travaille pour lui. Elle va être, toute sa vie, elle va être sa première lectrice et commentatrice de ses textes. Et puis elle va être sa copiste, parce qu'il écrit d'une écriture absolument illisible, qu'elle est la seule à pouvoir pratiquement déchiffrer. Donc c'est elle qui va recopier absolument tout ce qu'il écrit. Et on dit qu'avec Engels, c'est probablement la seule personne qui a lu toute l'œuvre de Marx. Hein. Et elle va occuper cette fonction tout au long de sa vie. Donc cette fonction de secrétaire de Marx, à un moment donné, elle va être, quand ils sont déjà à Londres, elle va être chargée de faire toute la correspondance de la Première Internationale. C'est une femme qui parle les langues, elle a été bien élevée dans les meilleures écoles. Ses séjours en France, en Angleterre, elle va parler l'allemand, l'anglais, le français et peut-être encore d'autres langues qu'on ne signale pas dans le livre. Les filles, pareil. Les filles vont avoir des professeurs aussi d'italien, d'espagnol. Marx va même apprendre le russe à un moment donné pour pouvoir lire des écrits de Bakounine. Donc c'est une famille très polyglotte. Et ça va, à Jenny, ça va lui servir pour son travail avec lui. Mais elle est aussi beaucoup enceinte, il faut dire. Elle est presque tout le temps en train d'attendre un bébé et en train d'en élever un nouveau. Il faut dire qu'elle va avoir de l'aide. Je ne sais plus exactement à partir de quel moment, mais je crois à partir de son deuxième enfant, qui est aussi une fille, elle va avoir de l'aide. Sa mère lui a envoyé la servante idéale. C'est Hélène Demuth, qu'ils appelaient Lenchen, qui va leur être fidèle toute la vie. Ils sont d'ailleurs enterrés les trois ensemble, Jenny Marx, Karl Marx et Lenchen, à Londres. Elle va être d'un dévouement, enfin, au-delà de je sais pas, de toute limite. Et elle s'occupe, au fond, des tâches domestiques avec Jenny. Mais Jenny s'occupe plutôt, je dirais, de la partie financière des tâches domestiques, de financer la vie de la famille. Elle est tout le temps en train d'emprunter. Elle fera beaucoup de voyages dans sa vie pour aller voir un vieux cousin qui peut-être va donner quelques livres ou quelques thalers, etc. Et Lenchen s'occupe probablement du ménage, de la cuisine, des trucs comme ça. Et puis d'élever les enfants à la maison, disons. Parce que les filles fréquenteront de très bonnes écoles par la suite. Oui, c'est une femme qui... C'est une Ariella, c'est quand même une aristocrate. Hein. Elle était habituée, à, par son éducation, à être une dame. Elle vit dans la bohème la plus complète, comme on verra dans le petit portrait que j'aimerais lire tout à l'heure. Une bohème à laquelle elle s'est habituée parce qu'elle est... Elle est d'origine aristocrate, mais elle est tout à fait acquise à la cause de la révolution sociale, du prolétariat. Elle est tout à fait identifiée avec ce que Marx pense et écrit. Alors, à propos de ce petit portrait que je voulais faire un peu de leur intérieur et leur vie de famille, c'est curieux. C'est à partir du moment où ils habiteront Londres, c'est-à-dire après avoir été expulsés d'Allemagne, de Belgique et de France, en 1849, ils doivent s'installer à Londres et c'est là qu'ils resteront. Et alors la Prusse qui surveillait toujours plus ou moins les activités de Karl Marx, bien qu'il soit, il n'ait pas été un type très très connu à son époque, par exemple... Lassalle, le révolutionnaire allemand, était beaucoup plus connu que lui. Mais malgré tout, évidemment, le gouvernement de la Prusse surveillait tous ces exilés un peu trop théoriciens et qui préparaient, qui disaient ouvertement préparer la révolution. Et c'est comme ça qu'on envoie un agent des services secrets à Londres pour entrer dans le cercle des Marx et voir un peu qui ils sont et ce qu'ils font. Et cet agent va être plus tard le chef des services secrets de Bismarck, donc c'est pas rien. Alors cet homme-là, il s'appelait, excuse-moi, je dois mettre mes lunettes. Alors il s'appelait Wilhelm Stieber, et voilà ce qu'il écrit dans son rapport. Il commence par un portrait de Marx âgé alors de 34 ans. Ses yeux grands, fiers, perçants, ont quelque chose de démoniaque qui inquiète. Au premier regard, on voit en lui un homme de génie et d'énergie. Sa supériorité intellectuelle exerce un irrésistible pouvoir sur son entourage. Dans la vie privée, il est hautement désordonné, caustique. Il mène une existence de bohémien. Se laver, prendre soin de sa personne, changer de sous-vêtements sont des événements rares chez lui. Souvent, il est ivre. Souvent, il flâne toute la journée. Mais quand il a un travail à faire, il y passe le jour et la nuit. Il n'a pas d'heure fixe pour dormir et se lever. Souvent, il reste debout toute la nuit et, à midi, il s'étend sur un sofa, tout habillé, et dort jusqu'au soir, indifférent aux allées et venues autour de lui. Sa femme, cultivée et charmante, s'est habituée à cette vie de bohème et semble s'être faite à cette misère. Ses enfants sont très beaux, avec les yeux intelligents de leur père. Comme mari et comme père, Marx, en dépit de son caractère sauvage, est le plus tendre et le plus docile des hommes. Marx habite l'un des pires et des plus pauvres quartiers de Londres, dans deux pièces, l'une avec vue sur la rue, l'autre sur la cour qui sert de chambre à coucher. Il n'y a pas un meuble convenable. Tout est cassé, en morceaux, en lambeaux, couvert de poussière et dans un grand désordre. Au milieu de la pièce, sur une grande table branlante, couverte d'un linoléum, manuscrits, livres, journaux, jouets, voisine avec un ouvrage de couture, des tasses à lances cassées, des couverts sales, une lampe ou encore des verres, une pipe hollandaise, un cendrier, le tout entassé là. Quand on entre dans la pièce où se trouve Marx, les yeux se heurtent à un voile de fumée. Il faut s'y habituer pour distinguer quelque chose dans ce brouillard. Tout est sale, plein de poussière. S'asseoir est une entreprise dangereuse. Là, une chaise tient sur trois pieds. Ici, les enfants jouent à faire la cuisine sur l'autre chaise. Le visiteur est invité à s'asseoir dessus, mais elle n'a pas été nettoyée et on y risque son pantalon. Rien de tout cela n'embarrasse Marx et sa femme. On est reçu de la manière la plus charmante. On vous offre pipe, cigarette, ce qu'il y a dans la maison avec cordialité. Le charme d'une conversation brillante fait pardonner les déficiences domestiques et rend l'inconfort tolérable. L'agent conclut qu'une fois habitué au milieu, on trouve la conversation de Marx tellement intéressante et originale qu'on en voudrait davantage. et il finit par ces mots. Ceci est une image fidèle de la vie de famille du chef communiste Marx. Toute
non,
sa famille l'appelait
pas.
Comme ça, et tout le monde l'appelait comme ça parce qu'il était, il avait une grande crinière noire, des yeux noirs, il était très brun, un grand gaillard, très robuste, portait monocle aussi, mais il était si brun qu'on l'appelait le mort. Et d'ailleurs, quand sa femme est morte, Engels a dit. Le mort est mort aussi, maintenant. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, Catherine, que je te dise encore de Jenny Marx, hein?
Écoute, je ne sais pas, cette femme qui a l'air d'avoir vécu une vie si traditionnelle avec un homme qui finira par être tellement exceptionnel et qui, comme tu le dis, a dû faire face aux difficultés bien, hélas, traditionnelles de beaucoup de femmes de cette époque, des difficultés d'argent et des difficultés en tant que femme qui élève ses enfants. Est-ce que finalement, elle prendra quand même une part de contentement à ce que son mari fait, mais pour elle, est-ce qu'elle a une... disons, Françoise Giroux parle d'elle un moment, pas toujours en comparaison avec Karl Marx, parce que dans tout ce que tu nous as raconté, on dirait que tout ce que fait Jenny est dicté par ce que fait Marx. Hein. Ça a l'air d'être vraiment... On en apprend autant sur Marx que sur Jenny quand on lit la biographie de Françoise
Absolument.
Giroux.
Oui.
Est-ce qu'à un moment donné, on ne parle que de Jenny?
Peu, parce que... Ce qui s'est passé, c'est qu'il semble qu'ils ont eu une assez grande correspondance tous les deux, parce que de temps en temps, l'un ou l'autre voyageait. En général, comme j'ai dit, c'était pour chercher de l'argent ou pour apporter un manuscrit éventuellement quelque part. Donc, ils avaient une correspondance qui a été malheureusement perdue parce qu'une de leurs filles l'a brûlée, ne l'a pas aimée et l'a brûlée. Il est resté très peu de lettres. Il est resté quelques notes autobiographiques dans une sorte de journal, je pense, que d'elle. Pas jusqu'à la fin de sa vie, mais sur une partie de sa vie sur laquelle se base un petit peu Françoise Giroux. Mais c'est vrai elle est mariée avec un génie et elle est
écrasée.
Dévouée. Mmh. Oui, elle est écrasée, mais elle, apparemment, elle ne revendiquait pas autre chose. Elle n'a pas revendiqué autre chose pour elle. Elle avait une place dans la mesure où tous ceux qui approchaient le foyer des Marx ont dit qu'elle était absolument charmante. Elle avait une conversation brillante. C'était une femme ambitieuse dans le sens... Elle avait de l'ambition pour son mari. Mmh. Elle était prête à tout faire pour qu'il ait du succès, pour qu'on le reconnaisse. Évidemment, de son temps, elle n'a rien su. Elle n'a jamais su ce que ça allait donner parce que jusqu'à la fin de leur vie, aux deux, Marx n'était pas vraiment célèbre et ne gagnait de toute façon pas d'argent avec ses livres. Et il y a la révolution qu'il croyait arriver à tout moment dans sa vie s'est produite beaucoup, beaucoup plus tard. Et s'est pas produite où il pensait qu'elle se produirait, c'est-à-dire en Allemagne ou en France ou en Angleterre d'abord. Elle s'est produite en Russie, la patrie de son ennemi Bakounine, parce que ça, je pas le temps d'en parler, mais ce serait d'ailleurs de toute façon plus un sujet sur lui de parler de ses luttes avec Bakounine, qui avait vu très clairement que les théories de Marx appliquées conduisaient tout directement au despotisme. Ça, il l'avait dit en 1870, il le disait déjà à Bakounine. Mais bon, ça, c'est une autre question. Alors, elle ne s'est pas... non, elle ne s'est pas révoltée. Elle n'a pas été une... Comment je dirais? Elle n'a pas été une épouse maltraitée, tu as vu? Il était tendre, il l'aimait, bien que nous savons qu'il y a une tâche dans cette histoire terrible.
Dans cette harmonie entre la bonne et...
Voilà. Hein, et alors, Marx a fait un enfant à la bonne, comme on dit, à l'Enschön, à un moment donné où Jenny était en Hollande, à chercher de l'argent d'ailleurs, et il n'a jamais accepté ou endossé cette paternité. Il l'a fait endosser à Engels, 1, dont on n'a pas parlé, je dirais juste deux mots après. Et Engels a accepté parce que lui aussi, il était tout dévoué à Marx. Et Jenny n'en a jamais parlé. Elle dit seulement dans deux lettres, quelque chose de terrible est arrivé qui m'a conduite au néant. Elle dit en 1851. Elle dit pas quoi. Et il y a eu juste deux petites phrases comme ça dans ses notes qui sont restées à elle, où elle parle de ça, mais sans dire de quoi il s'agit. Apparemment, elle a essayé de faire avouer à Lenchen, qui était le père de l'enfant, parce que bon, c'était une servante engrossée, hein, comme on disait à l'époque, qui n'a jamais rien dit. Toute sa vie, elle n'a jamais ouvert la bouche là-dessus, cette Lenchen, on a dit, elle était aussi dévouée à mort, celle-là. Et c'est Engels, sur son lit de mort, qui a dit Frédéric de Muth, c'est-à-dire l'enfant de Hélène de Muth, Lenchen, est le fils de Karl Marx. Et ça a été rapporté par la secrétaire d'Engels à l'époque, dans une lettre qu'elle a écrite à Auguste Bebel, qui était un chef socialiste allemand. Et ça a été retrouvé seulement en 1962 dans des archives de la correspondance Marx-Engels, parce que Bebel est devenu le légataire de cette correspondance par la suite. Et puis il avait donné ses archives à un institut d'Amsterdam où un chercheur a retrouvé par hasard cette lettre. Alors, où on décrit très bien la scène. Donc Marx n'a jamais reconnu ce fils, mais n'a jamais voulu le voir. Et ne s'en est pas occupé, n'a pas essayé de lui faire donner une bonne éducation comme il a fait avec ses filles. Et peut-être pour le punir d'une certaine manière, le seul garçon qu'il avait, enfin, il a eu deux garçons, mais un est mort très jeune. Le deuxième est mort à l'âge de 9 ans, toute la famille l'adorait. Ça devait être son successeur, et celui-là, il est mort aussi. Mais le seul qui est en fait est resté, il n'a jamais voulu le voir, il n'a jamais voulu le reconnaître. Alors ça, évidemment, c'est quand même un peu fort, hein? C'était vrai, ça s'était passé. Mais Jenny, apparemment, n'en a jamais parlé et lui est restée fidèle et attachée malgré tout.
Pour terminer, Evelyne, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes quelles sont les sources d'informations qu'a utilisées Françoise Giroux. Je ne sais pas si elle l'évoque ou si ça fait partie du secret de la recherche, mais quand on fait un sujet comme celui-là, ce n'est pas simplement le micro qu'on va tendre à un personnage qui vit. On doit fouiller, j'imagine, des tonnes d'archives, comme tu viens de parler de ces lettres qu'on a retrouvées si tard, et en plus Amsterdam. Elle a dû voyager, Londres, Bonn, etc. Est-ce qu'elle en cause un tout petit peu dans un bout quelque part de son livre ?
Non, elle n'en parle pas, mais ce qu'elle cite comme, disons, source directe, ce sont généralement des lettres d'Engels. Donc Engels avait la connaissance des Marx quand il avait 25 ans et eux aussi, et ils sont restés ensemble 50 ans. D'ailleurs, Engels a écrit beaucoup de textes signés Marx qui étaient faits par lui. Et si tu veux, si j'ai le temps, j'aimerais terminer par la lecture d'un portrait de Jenny Marx, un portrait psychologique, disons, de Jenny Marx, qui a fait un des familiers de leur maison, un de ses camarades communistes qui les fréquentait, Wilhelm Liebknecht. Si tu es d'accord, je finirai par ça. Madame Marx avait peut-être sur nous plus d'autorité que Marx lui-même, écrit-il, Liebknecht. Cette dignité, cette hauteur qui en réalité n'écartait pas la familiarité, mais toute inconvenance, tout propos malséant, agissait avec une force magique sur nous, tout sauvage et tout farouche que nous étions. Madame Marx fut la première personne qui m'apprit à connaître le pouvoir éducatif de la femme. Avant de la rencontrer, je n'avais pas saisi la vérité des paroles de Goethe. « Veux-tu apprendre exactement ce qui convient ? Adresse-toi à de nobles femmes. » Elle fut pour moi tantôt celle qui humanise et qui éduque les barbares, tantôt celle qui donne le calme à celui qui s'affaisse ou qui doute. C'était à la fois une mère, une amie, une confidente, une conseillère. Elle fut et elle reste pour moi l'idéal de la femme. Et je le répète ici, si je n'ai pas sombré à Londres, spirituellement et physiquement, c'est à elle que je le dois. Et puis il y a un autre témoignage, celui de Lesner, le tailleur, un tailleur communiste aussi. La maison de Marx était ouverte à tous les camarades. Là brillait la remarquable Madame Marx, mais si dénuée de toute fierté et de toute raideur qu'on se sentait chez elle comme auprès d'une mère ou d'une sœur. Tout son être rappelait les paroles du poète populaire écossais Robert Burns. « Femme, charmante femme, le ciel t'a destinée à adoucir l'homme. » Elle était pleine d'enthousiasme pour le mouvement ouvrier et le moindre succès remporté dans la lutte contre la bourgeoisie la comblait d'aise. Nul doute, il aimait les camarades.
Je crois qu'effectivement, ces deux portraits que tu nous viens de nous lire, Evelyne, est un hommage rendu en tout cas à Jenny Marx. Alors, on peut peut-être rappeler que ce livre est publié dans quelles éditions ?
Aux éditions Lafon.
Voilà. Et que, comme d'habitude, bien sûr, les deux livres dont vous avez entendu parler aujourd'hui, à savoir Jenny Marx, Françoise Giroux et Une saison à Bratislava, Joe Langer, vous pouvez les trouver tous les deux, bien sûr, à la librairie, l'inédite librairie des femmes à Genève, rue Cardinal Mermillot. Ouverte
tous les matins de 9h à 12h, tous les après-midi de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 1h.
Et la prochaine fois que nous nous rencontrons avec nos amis de l'inédite, eh bien ce sera la toute veille du nouveau prochain Salon du Livre, dans lequel, bien évidemment, la librairie l'inédite aura son stand.
Voilà. Un grand stand, hein, un grand très stand. Grand stand, 20 mètres carrés.
Waouh ! Ceci, bien sûr, est toujours depuis une année. Ce sera la deuxième dans un village alternatif au sein du Salon du Livre. Donc, nous vous encourageons vivement à venir nous y retrouver. Hélas, le mercredi où nous nous retrouvons avec l'inédite, nous ne serons pas en direct parce qu'hélas, Radiozone n'émet toujours pas en direct depuis l'extérieur, mais enfin, vous pouvez toujours y contribuer, si jamais, profitons-en, en versant votre obol à Radiozone, votre carte de soutien, la carte d'auditrice ou d'auditeur, au prix de 30 francs, et oui, puisque nous sommes le mois de mars, c'est le début des renouvellements de cartes d'auditrice et d'auditeur, alors j'en profite pour vous le rappeler, et c'est tout simple, vous écrivez soit à Radiozone, nom de femme, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Soit vous nous faites une demande au téléphone en nous laissant un message sur notre répondeur en téléphonant au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève. Alors Evelyne, mille merci pour cette présentation. Annette a dû s'enfuir en courant, mais nous vous retrouvons dans un mois avec beaucoup de plaisir.
Au revoir Catherine.
à moitié blanc.